France Culture.
Et les midis, c'est reparti, bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec le metteur en scène d'opéra, Peter Sellars. Il est à l'Opéra Garnier en ce moment avec Castor et Pollux. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Rebonjour Marie.
Bonjour à tous. Partout en France et pendant 2 semaines, le grand public est appelé à se sensibiliser à l'importance sociétale du son. Au programme, plus de 110 événements, des tables rondes sur la régulation de la pollution sonore urbaine, des discussions sur l'impact du son sur le bien-être, mais aussi des performances artistiques et une remise du prix de la meilleure création sonore. Alors comment vivre mieux dans notre environnement sonore? C'est le dossier du Point Culture du jour. Christian Hugonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur acoustique et président fondateur de la Semaine du Son. Pour cette 22e édition, le thème choisi est son et politique. Vous dites que ce lien vous a paru évident aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ?
Oui, je pense que nous pensons, de manière générale, qu'il y a bien un lien entre son et politique, la mesure où notre environnement sonore, urbain en particulier, dépend quand même de nos infrastructures et qui sont elles-mêmes d'ailleurs dépendantes des projets de société, des projets d'aménagement, et tout cela est évidemment politique, évidemment. Donc cet environnement, qui joue un rôle important sur notre manière de se conduire, qui va jouer sur le fait qu'on soit violent ou tranquille, ou apaisé, tout cela effectivement relève d'une dimension politique, oui, bien sûr.
Alors, son et politique, le « et » s'écrit « et », mais est-ce qu'on aurait pu aussi l'écrire « est », le son est-il politique selon vous ?
Oui, il l'est, on aurait pu l'écrire « est », oui, tout simplement, parce que il n'y a rien de non politique dans toute approche, quelle qu'elle soit, quand il s'agit du sonore. Lorsqu'on parle du calme ou du bruit, on voit bien qu'il y a une possible ségrégation sociétale apportée par l'environnement sonore. Nous avons, avec Cynthia Fleury, évoqué, il y a quelques années déjà, le bruit pour les pauvres et le silence pour les riches. En quoi, précisément, les zones habitées ne sont pas égales en termes d'environnement sonore? Lorsque je suis dans le bruit, je n'ai pas forcément non plus l'accès à la réflexion. Et donc, j'ai besoin du silence pour réfléchir. Et comme par hasard, évidemment, ce silence devient un luxe. Et donc, il y a bien, peut-être, entre calme, je dirais, pour ne pas parler de silence et bruit, il y a bien, quelque part, un effet de ségrégation sociétale, oui.
Un des axes de travail que vous proposez cette année, c'est de rendre le décibel aussi familier que le degré Celsius. Pourquoi est-ce important pour vous ?
Parce que personne ne sait vraiment ce que c'est qu'un décibel, tout simplement parce qu'on n'a jamais, l'oreille n'ayant pas de paupières, on évolue en permanence dans un monde qui est rétinien la plupart du temps, et en fait on est pourtant immergé en permanence dans un environnement sonore constant. Et cet environnement sonore, il joue un rôle important sur notre comportement. Encore une fois, un lieu bruyant va vous rendre plus agressif qu'un lieu calme, et tout cela a du sens. Et que le décibel soit tout à fait connu aujourd'hui, tout autant que le degré Celsius, est extrêmement important, tout simplement parce qu'on vit en permanence dans le bruit, dans le son, et on est immergé en permanence dans le son. Donc on doit, à mon avis, et à notre avis, prendre conscience de cette immersion, et cette immersion, elle se traduit forcément en termes de décibels. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on ne sache pas ce que c'est qu'un niveau en décibels. Donc si on est amené à afficher, ce qu'ils ont à faire, on va mettre des afficheurs de décibels que Eric Orsenna appelle décibellateurs, on va les installer en drapeau sur les mairies et sur les magasins d'audioprothèses. Là, du coup, on va voir en permanence quel est le niveau auquel nous sommes soumis, finalement. Et du coup, à partir du moment où on saura véritablement ce que c'est qu'un décibel et qu'on le verra visuellement, cela nous permettra probablement de mieux comprendre et d'être plus conscient de ce monde sonore dans lequel on vit, de la même manière que nous connaissons aujourd'hui le degré Celsius.
Alors la Semaine du son, elle est liée à l'UNESCO. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi l'organisme international est lié avec cette Semaine du son ? Quels sont vos liens ?
Écoutez, on a lancé la charte de la Semaine du son qui tourne autour de 5 thèmes, l'environnement sonore, la santé auditive, l'enregistrement, savoir enregistrer et reproduire un son, tout ce qui touche à rapport image et son, tout ce qui touche à la musique. Voilà 5 thèmes qui ont été présentées en fait à l'UNESCO. C'est la première fois que l'UNESCO s'intéressait de près en fait à ce monde du sonore. Et nous en sommes très fiers et cela a donné effectivement naissance à une résolution 39C59 qui s'appelle « L'importance du son dans le monde actuel, promouvoir les modes pratiques ». Et puis également, l'UNESCO a été sensible également à tout ce qui touche au sujet de cette année, c'est-à-dire son et politique, mais aussi dans un domaine urbain. On sait bien que lorsque on met des villes dans le bruit en permanence, on empêche ces personnes justement de réagir et de réfléchir. Autrement dit, il y a bien en fait, à travers la pollution sonore urbaine, une capacité à mettre un peu l'homme sous cloche, si je puis dire. Donc là, oui, ça a donné des résultats intéressants dans la réflexion de l'UNESCO, qui est aussi un organisme qui n'était pas conscient précisément de cette dimension-là. Et du coup, là, depuis quelques mois, pour tout vous dire, nous sommes devenus, l'association organisatrice de cet événement qui s'appelle la Semaine du Son, est devenue une ONG. Et c'est la première ONG reconnue par l'UNESCO aujourd'hui, en partenariat direct avec l'UNESCO, qui s'intéresse aujourd'hui au sonore. Donc nous faisons de grands pas aujourd'hui pour valoriser cette dimension du sonore au niveau national et international, dans la mesure où nous sommes sur 24 pays maintenant au niveau international pour promouvoir justement cette notion du sonore.
Ça veut dire qu'il existe d'autres semaines du son dans d'autres pays ?
Absolument. Comme nous sommes à Paris et dans 40 villes françaises, nous sommes également dans plus de 20 pays dans le monde, du Brésil jusqu'à la Guinée équatoriale, en passant par Beyrouth, par le Caire. On est dans une belle aventure internationale qui a une dimension absolument incroyable. C'est un rêve d'arriver effectivement à relier les peuples entre eux, les civilisations entre elles, les États entre eux par ce sonore. Nous sommes reliés par le son. On devrait toujours le dire et probablement certainement plus que par l'image. Jacques Attali, qui a été un des parrains de la Semaine du Son, me disait encore il y a quelques années, il me disait, tu sais, le monde ne se regarde pas, il s'écoute véritablement.
Hein. Je ne vais pas vous contredire, nous qui sommes à la radio tous les jours.
Absolument. Et je dirais même qu'il s'entend pour mieux se voir. Donc il est intéressant, il est important, et avec l'UNESCO, l'idée c'est de renverser un paradigme de base qui consiste à regarder le monde. Arrêtons de dire à nos enfants, regarde bien uniquement, ou je vois bien ce que vous voulez dire, ou je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Non, il faut leur dire écoute, observe, c'est une chose, mais sache écouter. Et quand tu écoutes, tu vois mieux. Tu vois beaucoup mieux quand tu écoutes. Donc l'oreille, on le sait bien que le son est un créateur d'image. L'image n'est pas forcément un créateur de son, mais le son est un créateur d'image.
Merci.
C'est drôlement beau tout ce qui a été dit là, je trouve. Dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la célèbre photo de la petite fille au napalm au centre d'une controverse.
Oui, signée par le photographe Nick Hutt lors de la guerre du Vietnam en 1972, ce cliché qui montre une enfant nue brûlée par le napalm est sans doute l'une des photographies de presse la plus connue au monde. Le photographe a d'ailleurs reçu le prix Pulitzer pour cette photo l'année suivante. Pourtant, l'identité de son auteur vient d'être remise en question dans un documentaire présenté au festival du film de Sundance à Salt Lake City. Dans The Stringer, qui veut dire le pigiste en français, Bao Nguyen mène l'enquête en France, au Vietnam et aux États-Unis et découvre que c'est Nguyen Tan Nghe, un pigiste inconnu, qui aurait pris cette fameuse photo. D'après le film, c'est le directeur de la photographie de l'agence AP qui serait à l'origine de cette manipulation. Lors de l'avant-première, ce week-end, le documentaire a fait l'effet d'une bombe. De son côté, l'agence AP annonce avoir réalisé une contre-enquête qui conteste ces accusations.
10 heures parasitées par des milliers de faux titres.
Oui, la plateforme de streaming musical a en effet révélé qu'un titre sur 10, soit environ 10 000 pistes par jour, sont créées par de l'intelligence artificielle, sans autre but que d'être écoutées par de faux comptes. Alors ces pistes sonores, souvent de simples bruits blancs, comme le son du vent ou d'un aspirateur, parasitent fortement les rémunérations des artistes, car cette pratique frauduleuse permet à ceux qui en sont à l'origine de récupérer de l'argent grâce à ces écoutes artificielles. L'entreprise vient de mettre au point une technologie qui lui permet de détecter ses contenus parasites créés par IA et de les retirer ensuite de son catalogue.
Et pour finir, Marie, les Césars viennent d'annoncer une nouvelle mesure pour lutter contre les violences sexuelles.
L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, l'organisme chargé de sélectionner et d'élire les lauréats pour les Césars, vient de modifier son règlement interne. À présent, si l'un de ses 5000 membres est mis en cause par la justice pour des faits de violence, notamment de type sexiste ou sexuel, son droit de vote sera suspendu le temps d'une décision de justice soit rendue ou que sa peine soit terminée. On a appris dans le même temps que la 50e cérémonie des Césars, qui se tiendra le 28 février prochain, prochain à l'Olympia sera présenté par Jean-Pascal Zadi et présidé par Catherine Deneuve.
Merci Marie, et puis on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.